Bienvenue sur le podcast Infrastructure et Développement. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux de développement des infrastructures en Afrique. Dans ce deuxième épisode, nous parlerons du projet PPP d'autoroute à péage Dakar-AIBD ou autoroute de l'avenir. Vous avez été nombreux à me demander d'aider à y voir plus clair dans ce contrat, suite au lancement de ce podcast. Dans la première partie de cet épisode, nous répondrons aux questions clés suivantes. Quelles sont les caractéristiques techniques du projet de l'autoroute de l'avenir? Comment le projet est-il structuré pour son développement et son exploitation? Quelle est la répartition des risques entre la partie publique et la partie privée? Existe-t-il des enjeux liés à une clause de paysage dans ce projet, notamment avec le développement de projets potentiellement concurrents, dont le projet de train express régional Dakar-AIBD? Dans une deuxième partie de cet épisode, qui sera publiée dans 2 semaines, nous apporterons des réponses aux questions suivantes. Quels sont les avantages offert par la réalisation de ce projet sous un contrat PPP? Quelles sont les retombées économiques du projet en phase travaux, mais également en phase exploitation? Qu'est-ce qui fait du projet de l'autoroute de l'avenir un exemple de PPP réussi en Afrique? Qu'est-ce qui a motivé la renégociation du contrat entre 2019 et 2021? Et quelles sont les principales conclusions de ces renégociations? Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à Cheikh Diouf, le secrétaire général de la société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'avenir, CKSA. Cheikh est un ingénieur de conception en génie civil de l'École polytechnique de Thiès avec plus de 15 ans d'expérience. Il a commencé sa carrière dans les travaux routiers, avant d'aller dans le contrôle technique. De 2012 à 2019, Cheikh était le responsable infrastructure de l'autoroute Dakar-Damnadio-AIBD. Depuis 2019, il occupe le poste de secrétaire général au sein de CKSA. Bonjour Cheikh.
Bonjour Mamoudou.
Merci encore de nous rejoindre pour cet épisode. Dans cet épisode, nous souhaiterons échanger sur les PPP autoroutiers. Plusieurs pays en Afrique opte pour ce modèle contractuel pour le développement d'infrastructures routières économiques, notamment les autoroutes et les ponts. Et pour être plus pratique, nous parlerons de l'exemple de l'autoroute à péage Dakar-Damnadio, l'autoroute de l'avenir. Ce dernier est présenté comme un exemple de contrat PPP réussi en Afrique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous présenter brièvement votre entreprise Eiffage, qui est le partenaire privé de l'État du Sénégal dans ce projet d'autoroute?
Merci Mamoudou. Eiffage est en fait l'un des leaders européens du BTP et des concessions. Donc aujourd'hui, Eiffage, c'est 72 000 collaborateurs à travers le monde et c'est 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Eiffage est actif sur 8 métiers, à savoir la construction, l'immobilier, l'aménagement, le génie civil, le métal, la construction routière, l'énergie et les systèmes, mais également les concessions. Bon, sur l'activité concession, ce qu'il faut dire, c'est que nous évoluons globalement sur le domaine autoroutier. Nous avons plus de 2400 km d'autoroutes que nous exploitons en France, mais également nous exploitons des ouvrages d'art, tels le viaduc de Millau, des aéroports, tels l'aéroport de Toulouse et de Lille, mais également des lignes ferroviaires, des stades, des universités, des lycées et des collèges. Voilà. Ce qu'il faut également noter, comme on parle du Sénégal, c'est que Eiffage est présent au Sénégal depuis plus de 95 ans. On a vraiment un ancrage local fort au Sénégal, ce qui fait de nous un opérateur de choix pour mener ce genre de projet.
Merci Cheikh. On voit clairement que le Sénégal a choisi un partenaire avec une grande expérience en concession, mais aussi une bonne connaissance du contexte local. Parce que plus de 95 ans effectivement de présence, ça te donne pas mal d'avantages compétitifs. Pour rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous présenter brièvement les caractéristiques techniques de ce projet?
Donc pour parler des caractéristiques techniques liées au projet, donc ce qu'il faut dire c'est que c'est 42 km aujourd'hui qui sont exploités, donc 7 km en 2 fois 3 voies et 35 en 2 fois 2, mais extensible pour une bonne partie en 2 fois 3 voies. Nous avons 43 ouvrages d'art sur le tronçon, 9 gares de péage qui au total reçoivent 61 voies de péage, un système de péage ouvert, donc le tracé est découpé en zone tarifaire. Ce qu'il faut dire, c'est que sur les coûts de construction, nous étions sur un montant d'environ 210 milliards. Et sur la phase montage du projet, également, ce qu'il faut dire, c'est que les acquisitions préopérationnelles et les frais de structure ont été évalués à 24 milliards de francs CFA. Donc, ce que je peux également rajouter sur l'aspect caractéristique technique, c'est que les travaux se sont faits quand même dans un environnement très contraint, donc une zone fortement urbanisée, ce qui veut dire beaucoup de libération d'emprise. 3000 ménages ont dû être déplacés dans le cadre de ce projet. Mais également, il y a eu beaucoup de déplacements de réseau, une densité d'ouvrages d'art assez élevée parce qu'il fallait rétablir les communications qui existaient. Je dirais également que sur ce type de projet, pourquoi un opérateur privé comme Eiffage, présent au Sénégal depuis 95 ans, arrive à être un opérateur de choix, c'est que c'est des projets qui sont des contrats qui sont un petit peu complexes pour plusieurs raisons. On a une relation contractuelle de long terme, environ 30 ans, des investissements qui sont lourds, des travaux qui sont complexes et dans un environnement très urbanisé, comme je disais tout à l'heure. Une forte incertitude sur les prévisions de recettes et de charges. Je pense que ça, on l'abordera dans le courant de l'entretien. Et un environnement opérationnel qui est assez particulier, qui est à apprivoiser. On fait face à une sinistralité extrêmement élevée, donc au-delà des standards internationaux. Donc tout cela fait que quand même avoir un opérateur comme FH qui a une expertise de ce type de projet, quand on exploite 2400 km d'autoroute, c'est qu'on a un savoir-faire qu'on peut facilement déployer sur le Sénégal.
Merci Serge, c'est effectivement un projet qu'on pourrait caractériser comme grand projet d'infrastructure. Et revenant carrément à la CPPP, pourriez-vous nous rappeler la structuration du contrat?
Voilà, nous sommes sur un contrat de concession. Si on se réfère à la nouvelle loi PPP, c'est un PPP avec un paiement par les usagers. Donc il y a eu deux contrats. Un premier contrat qui concerne le tronçon Dakar-Diamniadio qui a été signé en 2009 pour une durée de 30 ans. Donc son terme initial était de 2039. Et un deuxième contrat qui concerne le tronçon Diamniadio-Ayibédé signé en 2014 avec un terme similaire à celui du contrat initial, à savoir 2039. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que suite aux dernières négos qui ont pris fin en 2021, le contrat a été rallongé de 5 ans. Donc, le nouveau terme du contrat est maintenant pour 2044. Concernant les parties prenantes au projet sur le volet public, l'autorité concédante, c'était le ministère des Infrastructures, le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Et il y a une autre entité extrêmement importante sur le projet, sur son pilotage et son suivi quotidien, c'est l'APIS qui assure la mission d'autorité concédante déléguée. Côté privé, la société de projet, la CKSA, était une société créée en 2009 et qui était avec un actionnariat 100% FH jusqu'en 2021 où on a cédé 25% du capital à l'État du Sénégal. On a opéré sur ce projet avec un groupement concepteur-constructeur constitué de deux entités, FH Sénégal et FHTP. Et actuellement, nous avons une société d'exploitation qui s'appelle FH Opérations Services qui assure le volet exploitation sur la viabilité sécurité, sur la maintenance des systèmes opérationnels et des systèmes informatiques et sur le pilotage administratif, donc tout ce qui est service support administratif, RH, QSE. Concernant le plan de financement, s'il faut en parler, on a eu un total emploi de 259 milliards de francs CFA qui ont été financés de la façon suivante. Donc la subvention publique donc apportée par l'État, y compris les indexations liées aux coûts de construction. Elle faisait 183 milliards de francs CFA, donc à peu près 70%. il y a eu un apport privé d'environ 76 milliards de francs CFA, donc soit 30% du plan de financement, constitué d'une dette contractée auprès de 4 banques, 3 multilatérales, l'AFC, la BAD et la BOAD, et une banque commerciale, la CBAO. Et ensuite, il y a eu des fonds propres et des flux de trésor opérationnels qui ont été réinjectés sur le projet à hauteur de 37 milliards de francs CFA.
Merci, cher. Donc, j'imagine que les 39 milliards restants sont apportés effectivement à travers la dette privée. Juste peut-être pour ce cas précis, quels sont, on va dire ici, dans l'offre des phases, vraiment les grands avantages compétitifs qui ont justifié un peu le choix de ce partenaire privé?
Bon, je dirais qu'EFAG est troisième exploitant autoroutier en France. Donc, on a plus de 2400 km d'autoroute. Donc, on a quand même un savoir-faire sur ce domaine. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'EFAG, c'est vraiment un groupe qui sait apporter une solution intégrée à travers ses différentes branches et ses différents métiers. Donc, sur ce projet, on a mobilisé aussi bien des équipes de génie civil, de travaux routiers, de construction métallique, mais également nos équipes énergie et système. Donc, on a travaillé avec nos branches CLEMSI et RMT qui sont spécialisées sur le domaine des énergies et systèmes. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on est en mesure de proposer une solution intégrée. Donc, on n'a pas un maître d'ouvrage public qui va discuter avec 4 ou 5 entités. On arrive avec une solution intégrée où on est en mesure de proposer un projet global. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que nos équipes en charge des concessions savent justement agréger ces différentes compétences et synergies de façon à apporter la meilleure réponse aux clients. Après, l'autre élément fondateur et qui a conditionné ce choix, c'est qu'étant présent au Sénégal depuis 95 ans, on a une bonne connaissance de l'environnement socio-économique et culturel. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger sur le pilotage de grands projets de ce type.
Merci, cher. Un élément très important dans les contrats PPP est la bonne répartition des risques. Les bonnes pratiques veulent que la partie la mieux outillée pour supporter un risque soit celle qui la prend en charge. Pourriez-vous nous présenter la répartition des principaux risques entre la partie publique et la partie privée dans ce contrat?
Alors, tu as utilisé la bonne formule dans ta question. Sur ce projet, si les risques qui ont été supportés par l'État, parce que l'État était le mieux à même de supporter ces risques, c'était un risque lié à la mobilisation de la subvention publique, donc le projet n'était pas bankable, comme on dit. Il fallait une dose de subvention pour qu'il puisse être rentable et puisse être mis en œuvre. Donc l'État avait ce risque de mobilisation de la subvention publique. Tout à l'heure, on avait dit que ça faisait autour de 183 milliards de francs CFA. Deuxième risque supporté par la partie publique, c'était le risque de libération des emprises. Donc, il y avait 3000 ménages à déplacer dans des zones plus ou moins urbanisées. Sur la zone jusqu'à Tiaroy, c'était très urbanisé. Et puis au-delà maintenant, jusqu'à Rufisque, on avait moins de problématiques. Mais toujours est-il qu'il y avait des emprises à libérer. Ce risque était supporté par l'État avec une interface forte avec le planning de réalisation des travaux. Il y a également le risque lié aux procédures réglementaires et contractuelles. Donc, il y avait pas mal d'autorisations à obtenir et qui étaient du ressort de l'État. C'est un risque qui également a été supporté par l'État. L'État a également supporté un risque lié à l'indexation des coûts de construction. On était sur des durées de travaux pour le contrat initial de 44 mois. Donc, et sur la période 2009-2013, on s'est rendu compte que c'était une période pendant laquelle les coûts de construction ont augmenté parce que les indices de prix ont été considérablement revus à la hausse. Donc, c'est un risque qui a été supporté par l'État. Et le dernier risque qu'on pourrait évoquer, c'est le risque lié à l'environnement politique, légal et juridique. Concernant la partie privée, on a une série de risques dits techniques, donc c'est les risques de conception, les risques technologiques, les risques de dépassement de délai et les risques de surcoût de construction. Donc, si par exemple le coût de construction se révélait être plus élevé du fait d'une conception insuffisante, on ne pouvait pas se retourner contre l'État. C'est nous qui prenions en fait toutes les incidences liées à ce défaut de conception. ou à ce défaut d'appréciation technique du projet. Ça, c'était vraiment des risques que je qualifierais de techniques, voilà, globalement. Après, il y a le risque majeur, c'est le risque de fréquentation, que l'on dit également risque trafic. Donc, s'il n'y a pas de trafic, et que par conséquent, il n'y a pas de recette, ça, c'est notre risque, c'est nous qui l'assumons entièrement. Donc, c'est l'un des risques majeurs liés à ce type de projet, et c'est ce qui justifie d'ailleurs que ce PPP ait été signé, c'est qu'il y avait une dose suffisante de transfert de risque à l'opérateur privé. Le risque de fréquentation, c'est vraiment le risque majeur. Et la COVID-19 est venue nous rappeler que c'est effectivement un risque, même si le projet surperformait en trafic. On s'est rendu compte sur une période de 3 mois allant de mars à la fin mai 2020 qu'on avait des baisses de trafic de l'ordre de 50%. Voilà. Donc on n'a pas à l'époque pu se retourner contre l'État pour dire quoi que ce soit. Après, il y avait un autre risque que l'on supporte, c'est le risque lié à l'inflation des coûts. Donc aujourd'hui, s'il y a une inflation qui impacte nos coûts d'exploitation, on ne se retourne pas contre l'État, c'est nous qui l'assumons. Pareil, les risques liés à l'évolution des taux d'intérêt et des taux de change, les risques liés au surcoût d'exploitation et de maintenance, et au surcoût également des coûts de gros entretien et de renouvellement. Aujourd'hui, sur la durée du projet, nous devrions réinjecter plus de 140 milliards de francs CFA rien que pour les coûts de gros entretiens et de renouvellement. Donc, si ces coûts se révèlent être supérieurs à cela, nous assumerons pleinement ce risque. Voilà de façon résumée les principaux risques qui sont répartis entre les deux parties.
Merci, cher. On retrouve effectivement une répartition du risque, on va dire classique, dans ce type de contrat avec transfert du risque commercial vers la partie privée. J'aimerais bien revenir sur l'aspect trafic. Le faible volume de trafic et les faibles revenus de péage qui en résultent contribuent grandement à l'échec des PPP routiers à péage. Ce risque a plusieurs sources, notamment l'erreur de prévision du trafic, l'incertitude inhérente au processus de prévision, mais également les biais. Ces biais incluent l'erreur humaine volontaire par laquelle des prévisions de trafic artificiellement élevées sont produites pour faciliter un objectif spécifique d'une partie du projet. Dans le cas spécifique de ce projet, le trafic a été plutôt dépassé par rapport aux prévisions. De combien avons-nous dépassé le trafic? Quelles ont été les bonnes pratiques utilisées dans ce projet ou des facteurs exogènes qui ont permis d'aboutir à une bonne prévision des trafics?
Merci Mamoudou, question très importante. Bon, le trafic, c'est le véritable sujet sur ce type de projet. Ce qu'il faut dire, et ça va permettre de gommer un peu le phénomène biais que tu as évoqué dans ta question, qu'il y a eu l'État qui a déjà mené son étude de trafic. Nous, à la remise de notre offre et pendant la phase de discussion du contrat, on a fait également une nouvelle étude. Et troisième chose à dire, c'est que ces études, elles ont été challengées dans le cadre du closing financier par les conseils techniques des prêteurs. Il y avait un conseil technique trafic des prêteurs qui a fait une due diligence sur les différentes études de trafic et qui s'est prononcé. Donc, je pense qu'il y a eu suffisamment d'études et elles ont été à suffisance aussi challengées. Donc, ça a permis justement de gommer ces problématiques des biais potentiels de trafic gonflé volontairement par l'opérateur pour juste rendre le projet bankable. Donc, ces phénomènes, on les a pas connus. Tu l'as bien dit, on a eu un trafic qui s'est révélé être supérieur aux prévisions. Ça, maintenant, pour l'expliquer, je pense que la raison principale, c'est l'explication principale, c'est le fait que la zone de banlieue de Dakar s'est développée très vite. Je pense que le modèle à la base n'avait peut-être pas suffisamment pris en compte cet aspect de développement de la zone d'orifice. Donc ça s'est développé de façon exponentielle, ce qui fait que ça a généré en fait du trafic entre Dakar et sa banlieue proche. Donc c'est peut-être ça qui justifie le fait que le trafic ait été de loin supérieur aux prévisions. Donc on a fait plus de 30% par rapport aux prévisions initiales. Maintenant, faisons attention à ce chiffre. Voilà, quand on dit qu'on fait plus de trafic, 30% de trafic ne veut pas forcément dire 30% de plus de recettes. Pourquoi? Parce que il peut y avoir un biais parce que tout simplement, on a moins de poids lourds que prévu. Là, je sais que le modèle à la base prévoyait du trafic PL de l'ordre de 10% rapporté au trafic global. Là, on tourne autour de 5 à 6%, ce qui fait que même si on a plus de véhicules, les poids lourds payant un petit peu plus, ça a tendance à diluer cet effet sur les recettes. Voilà. Donc, c'est ça que je peux vraiment dire sur cet aspect. Il y a eu des études, elles ont été sérieuses parce qu'elles ont été menées par des cabinets de renommée mondiale. Ces études ont été challengées également par des experts internationaux. Et aujourd'hui, si on a plus de trafic, c'est pas parce que l'étude était forcément mal faite, mais c'est parce qu'il y a peut-être des données liées à l'urbanisme, liées ou des données macroéconomiques qui ont peut-être évolué.
Merci, cher. Effectivement, je pense que la prévision de trafic est un exercice très difficile et il y a forcément beaucoup d'inconnus qu'on a du mal à maîtriser au moment de la préparation du projet. Et également, c'est très important de ne pas directement faire, on va dire, des raccourcis dans l'appréciation de ce trafic qui est effectivement beaucoup plus élevé que ce qui était prévu initialement. Tu l'as bien expliqué, la différence en fonction du type de véhicule qui passe au niveau de l'autoroute peut fortement changer effectivement la perception qu'on a en tout cas des recettes additionnelles par rapport à l'extérieur. Je vais revenir peut-être sur un point également qui est très important, toujours en restant dans le cadre contractuel, c'est l'aspect, on va dire, clause de paysage. Tu l'as tout à l'heure expliqué, il y a eu beaucoup de développement urbain et ces clauses de paysage, en général, protègent le concessionnaire contre certaines concurrences sur le réseau qui pourraient perturber l'équilibre économique du contrat. Par exemple, la construction de toute infrastructure qui pourrait concurrencer l'autoroute sur le trafic. On a vu récemment le démarrage de l'exploitation du train express régional Dakar-Damniadio, qui devrait arriver également à AIBD. Le TER pourrait potentiellement concurrencer l'autoroute de l'avenir. Est-ce qu'il y a eu une clause de paysage dans ce contrat? Y a-t-il eu des discussions avec l'État dans le cadre des projets structurants en cours de développement qui pourraient éventuellement concurrencer l'autoroute à péage?
Oui, il y a effectivement eu une clause de paysage dans chacun des contrats. Après, ce que je veux préciser sur les clauses paysage, c'est qu'il y a eu un biais sur la perception. Souvent, on considère la clause de paysage comme une obligation de faire ou une obligation de ne pas faire. C'est pas vraiment ça. La clause paysage, elle sert essentiellement pour bien calibrer en fait le modèle de trafic. Il faut pas le percevoir comme étant vraiment une obligation de faire ou de ne pas faire. Après, l'État est libre, je pense, dans ses choix d'aménagement, de développer les projets à des horizons différents, de modifier les projets tels qu'il le souhaite. Maintenant, la clause, comme elle a permis de dimensionner au mieux le trafic, on peut y faire appel quand on se rend compte que les prévisions s'écartent des données réelles du fait justement de modifications sur certains aménagements. Pour notre cas, comme on a un trafic qui surforfait, le problème ne se posait pas. Maintenant, tu as donné l'exemple d'une infrastructure qu'on peut considérer comme concurrente, le TER. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2009, quand on signe le contrat initial, le projet n'existait pas. En 2014, au moment de la signature du contrat complémentaire, le projet du TER avait commencé à être évoqué. Donc, ce qui avait été fait, c'est juste de rajouter dans l'un des articles du contrat une possibilité pour les parties de rediscuter si jamais ce projet s'est réalisé pour mesurer les éventuels impacts sur le projet de l'autoroute. Parce qu'à l'époque, on parlait de TER qui allait jusqu'à AIBD, au moment où on construisait une autoroute Damniadio AIBD. Donc, ça créait un effet concurrentiel certain. Finalement, le TER a été mis en service qu'à la fin 2021, donc au même moment où on s'apprêtait à signer le nouveau contrat de concession. Donc, ce qu'on a tout simplement fait, c'est de considérer dans la nouvelle clause de paysage l'existence du TER. Donc, les dernières études de trafic qui datent de 2021 prennent également en compte l'existence du TER. Donc, on est reparti sur un chemin où on a une clause paysage qui intègre désormais le tronçon Dakar-Damniadio du TER, mais également un horizon de mise en service pour le tronçon Damniadio AIBD du TER. Donc, les éventuels impacts de ce tronçon sont déjà pris en compte dans le cadre du modèle. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Après, maintenant, si les choses varient et deviennent autres, les parties se rencontreront et discuteront.
Merci, Cher. J'entends très bien quelque chose qui est très intéressant ici. C'est que le fait que le trafic a été au rendez-vous a beaucoup aidé, je dirais, dans ce projet-là, dans ce contrat-là. Mais également, il y a cette approche d'écoute, de discussion qui permet effectivement de se retrouver autour de la table et de s'assurer effectivement que les intérêts de chacun sont pris en compte. Le projet du TER, effectivement, à partir du moment qu'il ne menace pas, on va dire, la rentabilité du projet de l'autoroute à péage, c'est peut-être pas effectivement quelque chose qui constitue un grand enjeu. Merci pour cet élément de réponse. Ceci met fin à la première partie de cet épisode. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la deuxième et dernière partie, toujours avec notre invité, Cheikh Diouf, le secrétaire général de la société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'avenir, CKSA. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.